Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne.
Nicole Gibault.
J'en ai un ras-le-bol de ces gens-là.
À mon sens, c'est de l'intimidation.
Geneviève Peterson.
C'est sauve en marchant qu'on aura le temps de le rattraper.
La rencontre.
Ouais, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche?
Oui. C'est le juge.
La rencontre Gibault-Peterson.
Salut, Nicole.
Bonjour Geneviève.
Bon, on va revenir sur cette histoire, triste histoire, là, cette mère qui a tué sa fille, qui est déclarée non criminellement responsable. Là, cet enfant-là, là, qui avait 11 ans, et qui s'est attaqué en fait à ses deux filles, cette mère-là. Là, il y a une survivante, sa petite fille de 5 ans, qui évidemment est très, très traumatisée. Là, on parle du père aussi qui est traumatisé, même si cette femme-là était reconnue non apte à comparaître. Finalement, elle était dans une psychose, c'était persuadée là, que des gens étaient en train de prendre le contrôle de ses enfants, qui avaient des caméras dans la gorge de sa fille. Bref, elle avait des troubles psychiatriques sérieux, là.
Absolument. Et elle était évidemment, on a entériné la suggestion de tu sais, c'est des psychiatres qui se prononcent, puis il n'y avait même pas de psychiatre, il n'y avait pas de théorie d'un côté comme de l'autre, là, comme dans des dossiers qu'on a connus, là, comme Turcotte, Magnotta, etc. C'est pas une bataille d'experts ici. C'est vraiment tout le monde s'entend à dire qu'elle était non criminellement responsable lors des événements. Ça n'enlève pas une tristesse inouïe, un traumatisme inconsolable, surtout pour l'enfant qui demeure, qui se pose la question pourquoi, parce qu'elle avait 5 ans, elle a 5 ans. Mais quand on lit la description et ces gens-là, entre autres, là, je vois que c'est le docteur Chamberlain.
Gilles Chamberlain.
Gilles Chamberlain. Il fait souvent des évaluations en matière de non-responsabilité criminelle, puis à mon avis, il donne l'heure juste. Et les autres psychiatres qui ont témoigné dans ce dossier-là également ont tous eu la même réaction que cette personne-là ne peut pas. C'est vraiment une personne qui était en état de psychose, psychotique, très grave.
Oui, puis on dit que la COVID a empiré son état. Là, cette mère-là qui faisait des recherches sur Internet à un tel point qu'elle croyait que des oiseaux cherchaient à la contrôler. Là.
Ah non, c'est vraiment terrible de lire le descriptif de tout ce qui passait par la tête à cette dame-là. Oui. Mais ça ne remettra pas, évidemment, l'enfant en vie. Mais c'est sûr que là, elle est remise à la commission d'examen des troubles mentaux. Oui. Puis c'est pas quelque chose qui se fait rapidement là. Dans un cas aussi sérieux, à mon humble avis, on va avoir des évaluations parce que la commission c'est un tribunal mais qui font des examens puis ce qui les guide c'est d'évaluer le risque puis il faut vraiment lui donner des soins psychiatriques et la suivre et s'assurer qu'elle ne représenterait absolument plus de risque là, dans les circonstances. Alors, elle va être évaluée probablement à l'année, à moins que c'est vraiment tellement grave qu'on va sauter peut-être une année, là, mais c'est vraiment une évaluation.
Tu sais, Nicole, on disait c'est triste, évidemment, pour cette petite fille-là qui reste, pour le papa aussi, mais j'avais quand même une pensée pour cette mère-là. Tu sais, quand on va redescendre sur Terre, là, quand on va avoir eu les soins nécessaires, imagines-tu?
T'sais. Non, je peux même pas m'imaginer. Puis c'est vrai parce que à un moment donné, là, tu sais, qu'on. Puis je pense que le docteur Chamberlain a mis le point le doigt sur l'affaire quand il dit écoute, ce n'est pas de la simulation. Je suis convaincue à titre de psychiatre là, que c'est pas de la simulation qu'elle a inventé ces histoires-là. Mais justement, tu as très raison de dire ça. Quand elle va revenir sur Terre, mon Dieu, comment tu fais face à une telle situation? Mais bon, on va certainement prendre les moyens pour y arriver. Mais c'est d'une tristesse inouïe, là.
Effectivement. Inouïe. On se parle d'un couple de locataires qui a été trouvé coupable après avoir fait vivre l'enfer à un propriétaire. Là, on se parle de gens qui, si on se fie là, à ce qu'on a pu lire un peu partout, là, étaient vraiment pas portés sur le ménage. Je dirais ça comme ça. C'est un euphémisme, là, des déchets, une maison saccagée. Puis ça s'est même transformé là, en une espèce de confrontation avec le propriétaire en question, là, des bagarres. Puis c'était une espèce de concours de plaintes. Là, les locataires qui appelaient la police, qui appelait les pompiers pour rien. Il y a eu toute une histoire aussi avec des sacs à vidange. Là, on se vidait des sacs à vidange sur les autos réciproquement. Bref, pas tellement une belle relation locataire-propriétaire, là, Nicole.
Non, puis c'est très, c'est beaucoup plus souvent qu'on pense que ces choses-là se passent dans des relations locataires. Et bon, c'est sûr que le Code civil, il y a toute une partie là pour qui règle la régie des loyers, le tribunal administratif, pardon, maintenant pour les loyers. Mais c'est sûr que lorsqu'on y pense, là, que ça vient au coup des bagarres, etc., puis que on en vient à ce point-là, ben là, il y a vraiment un problème. Et on voit là que ça accéléré, ça s'est exacerbé pendant des mois, et c'est dommage parce que pas juste au niveau, tu sais, comme tel des meubles, puis
ils payaient pas leur loyer non plus là. Pierre-Alexandre Milot, Mylène Choignard, un couple.
Puis psychologiquement là, tous ceux et celles qui sont propriétaires d'édifices, de maisons ou de quoi que ce soit de logement, vont se reconnaître à un moment donné ou à un autre. C'est vraiment pas drôle de passer à travers tout ça.
Ah, c'est le pire cauchemar.
C'est le pire cauchemar parce que tu sais, puis t'as beau prendre toutes les recommandations d'un et de l'autre, ça arrive assez malheureusement fréquemment. Alors ici, le juge a appliqué sa discrétion là, quand on parle de croire ou ne pas croire, mais il faut qu'il motive. Alors, tout à fait motivé cette décision-là. Je vous crois pas. Pourquoi? Voici, puis en plus, il a utilisé une propre vidéo que les gens, les accusés, ont eux-mêmes fait. Pour se servir de pour leur défense, mais ça les a pas aidés du tout, là. Au contraire, le juge s'est appuyé sur cette vidéo-là. Donc, quand on dépose des choses à la cour, faut y faire attention, là. Alors, il ne retient aucunement, mais aucunement, zéro moins qu'une barre, la version des accusés. Et à ce moment-là, il y a aucun doute raisonnable, le fameux doute raisonnable. Donc, quand on rejette comme ça complètement la version des accusés, il ne reste qu'une version. Oui, ça se peut des fois qu'il y ait des petits trous dans la version de la couronne ou enfin la partie qui dépose, qui fait une plainte, mais c'est pas ça qui a fait en sorte qu'il a fait changer d'avis le tribunal aujourd'hui.
Oui, puis après ça, je regarde ça puis tu dis, OK, même s'ils condamnent ce couple-là, le juge a payé des dommages. S'ils n'ont pas une scène, ils n'ont pas une scène.
C'est ça, on va courir.
Ça, c'est terrible
après
aussi,
ces gens-là assez longtemps. Souvent, c'est le cas, là, malheureusement.
Nicole, on va se parler d'Yves Cyr, un homme accusé de meurtre qui a été libéré sous condition. Après ça, sa liberté a été révoquée. Peut-être un peu nous résumer, c'est quoi l'histoire là avec ce monsieur-là?
Ben, dans ce dossier du meurtre d'Yves Cyr, évidemment, le monsieur qui était accusé et qui est encore accusé, c'est les policiers ont arrêté un dénommé François Boutotte, qui était un collègue de cette victime-là. Et il avait déjà été libéré de façon conditionnelle d'une peine d'emprisonnement qu'on peut comprendre là, pour un meurtre un meurtre, on peut aller dans les détails, là, pour un meurtre.
Bon, oui.
Là, tout va tourner autour du fait que maintenant, il fait face à des accusations. C'est parce que si je ne m'abuse, là, c'est au mois de juin qu'on a déposé des accusations contre cet individu-là pour outrage au cadavre, puis complicité après le fait. Puis c'est là que qu'entre en jeu la question des libérations conditionnelles, etc. Parce qu'il avait eu une libération conditionnelle totale.
Gens se posent la question, là, parce qu'il récidivait, entre guillemets, fait que là, on se dit, c'est une erreur des libérations conditionnelles, pourquoi on l'a laissé sortir?
C'est toujours la même question, mais on s'est toujours dit ensemble et on a toujours entendu les experts dire le risque zéro ne sera jamais atteint. Alors, mais encore une fois, je répète qu'à mon avis, je pense que les règles de libération totale ou peu importe, là, je pense qu'on a besoin d'un petit rafraîchissement dans ceci. Je sais que ça a été fait. Il y a eu des mesures. Ça a changé. Il y a des experts qui l'affirment, qu'on va maintenant sur des statistiques. Mais moi, je suis pas toujours convaincue que les statistiques nous parlent à ce point-là.
Ouais, il y a l'être humain, il y a les circonstances, il y a l'opportunité. Puis là, ce que je comprenais, moi, c'est qu'au niveau des libérations conditionnelles, on évalue évidemment le potentiel de récidive pour les 3 prochaines années. Est-ce que c'est moi qui comprends mal?
Ben c'est ce que je lis, la même chose que toi là. Pour les 3 prochaines années, maintenant, c'est qu'est-ce que ça nous dit, une 3 prochaines années, à 3,1 jours, tu sais, il y a quelque chose qui peut arriver. Est-ce que c'est réévalué pendant les 3 années en question, si c'est le cas? Moi aussi, j'ai un questionnement à ce sujet-là. Puis c'est certain, quand on perd quelqu'un, ici, en l'occurrence, on a les parents d'Yves-Cyr qui gardent toujours espoir là, que le meurtrier va être arrêté. Oui. Parce que là, il est accusé d'outrage à un cadavre. Il n'est pas accusé de meurtre, là. Il avait commis un meurtre. Il était en libération conditionnelle pour un autre meurtre. Puis c'est toujours ça qui allume les gens, parce qu'on dit, ben voyons donc, on est rendu à un deuxième potentiellement, mais on n'est pas rendu là, officiellement, mais c'est possible que ça se rende jusque-là. En tout cas, l'enquête se poursuit. Ça a été long, ça a pris 5 ans avant une arrestation avec la Sûreté du Québec. Il y a beaucoup de choses dans ce dossier-là qui fait en sorte que, bon, est-ce qu'on l'a remis en liberté trop vite, totale, mais on l'a révoqué, Dieu merci.
Bon, les parents qui, quand même, spécifiques, sont toujours confiants là, par rapport au travail des policiers. Nicole, merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
Merci à toi. Bonne fin de semaine.